Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Neil Nartrey. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1937 sous le titre original Think and Grow Rich, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, est un classique du développement personnel orienté vers la réussite. Et l'auteur affirme que l'enrichissement, au sens financier mais aussi plus largement dans la vie, commence par une transformation de l'état d'esprit et par une méthode de passage à l'action. Le livre s'appuie sur des années d'autres observations et d'autres entretiens menés par Hill auprès de figures majeures de l'industrie et des affaires de son époque. Souvent cité comme source, d'autres exemples et d'autres inspirations. Et l'objectif de l'ouvrage est de dégager des principes reproductibles, comme la clarté du but, la foi en son projet, la persistance et la coopération avec d'autres personnes. Même si certains passages reflètent le contexte du début du XXe siècle, le livre reste lu pour son ambition centrale reliée psychologie. Discipline personnelle et stratégie afin d'augmenter les chances de succès durable. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le désir comme point de départ et la formulation d'un objectif précis, Hill place le désir au commencement de toute réalisation. Il ne s'agit pas d'un simple souhait, mais d'une volonté intense, orientée vers un but défini. Le livre insiste sur la différence entre vouloir vaguement plus de confort et décider exactement ce que l'on vise, dans quel délai et ce que l'on est prêt à donner en échange. Cette logique transforme la quête de richesse en engagement mesurable et non en espoir abstrait. Dans l'esprit de Hill, la précision joue un rôle psychologique, elle facilite la concentration, réduit la dispersion et crée une pression positive qui pousse à agir. L'auteur recommande aussi de rendre ce but concret par l'écriture, puis par une répétition régulière qui entretient la motivation. Cette pratique vise à stabiliser l'intention dans le temps, car beaucoup d'objectifs échouent moins par manque d'intelligence que par manque de continuité. Le tome du désir fonctionne donc comme une méthode de cadrage, choisir une direction, définir un résultat et convertir à l'ambition en plan personnel. C'est également une porte d'entrée vers les autres principes, puisque la foi, la décision et la persistance deviennent plus faciles à mobiliser quand l'objectif est clairement défini. Deuxièmement, foi. Autosuggestion et rôle du subconscient dans la performance. Une part centrale du livre relie la réussite à la capacité de nourrir une conviction interne suffisamment forte pour soutenir l'effort. Il parle de foi au sens psychologique, une certitude cultivée, capable de résister aux doutes et à la critique. Pour renforcer cette foi, il met en avant l'autosuggestion, c'est à dire la répétition de idées directrices et de affirmations orientées vers le but. Et l'intention n'est pas de nier la réalité, mais d'en installer une attitude mentale favorable à l'action, en remplaçant l'hésitation par un état d'esprit plus confiant et plus constant. Il suppose que le subconscient est influencé par les pensées dominantes et qu'il peut, en retour, orienter les comportements à l'attention et la persévérance. Dans ce cadre, la visualisation et la répétition deviennent des outils pour ancrer une identité de personne en progression plutôt qu'une identité de personne bloquée. Le lecteur est invité à surveiller ses influences, ses habitudes mentales et les discours qu'il entretient, même si certains lecteurs jugent ces passages data. L'idée de fond reste actuelle, la performance dépend souvent de la façon dont on gère ses croyances, son dialogue intérieur et sa capacité à se projeter. Le livre propose ainsi une discipline mentale destinée à soutenir des actions cohérentes sur la durée. Troisièmement, connaissance spécialisée, imagination et planification organisée, il distingue la connaissance générale de la connaissance spécialisée. Pour lui, l'avantage compétitif vient moins d'une culture large que de la capacité à maîtriser un domaine utile. Savoir ou trouver information manquante et à mobiliser des compétences complémentaires. Cette approche conduit naturellement à l'imagination, présentée comme un moteur de création de valeur. L'imagination, elle n'est pas traitée comme une fantaisie, mais comme la faculté de combiner des idées, de repérer des opportunités et de concevoir des solutions. Le livre relie ensuite ces deux ressources à la planification organisée. Un objectif, même clair, reste fragile sans un plan d'action. Et il insiste sur l'importance d'élaborer des étapes, d'ajuster sa stratégie et de maintenir un effort structuré. L'idée clé est pragmatique, l'inspiration doit déboucher sur des décisions opératoires, des tâches et un calendrier, sinon elle se dissipe. L'auteur valorise aussi la flexibilité, car les plans rencontrent des obstacles. L'enjeu n'est pas de trouver un plan parfait dès le départ, mais de construire un système d'exécution qui apprend et se corrige, dans la logique de l'ouvrage. La richesse est la conséquence d'une création organisée, apprendre ce qui est nécessaire, imaginer une valeur distincte, puis déployer un plan pour la produire et la diffuser. Quatrièmement, décision et persistance face aux échecs temporaires, deux tomes se répondent constamment dans le livre « Décider vite et tenir longtemps ». Il décrit l'indécision comme une cause majeure de l'échec, car elle entretient l'inertie et rend la personne vulnérable aux opinions extérieures. La décision, au contraire, fixe une direction, et permet d'en engager des actions qui produisent des retours, donc de l'apprentissage. Mais la décision ne suffit pas, car tout projet rencontre des revers. Hill insiste alors sur la persistance qu'il présente comme une compétence à entraîner. Elle échec temporaire, elle n'est pas une preuve de incapacité, mais un signal que le plan doit être ajusté ou que l'effort doit être maintenu. Cette lecture des obstacles vise à éviter deux pièges fréquents, abandonner trop tôt ou changer constamment d'objectif sans aller au bout d'une stratégie. Hill relie la persistance à elle état d'esprit, à elle environnement social et à la clarté du but. Plus elle objectif est précis et plus elle engagement est fort, plus il devient possible de traverser les phases de découragement, pour le lecteur moderne. L'intérêt de cette partie est surtout comportemental, elle rappelle que les résultats exceptionnels sont souvent la somme de actions ordinaires répétées, et que la différence se joue parfois dans la capacité à continuer quand la motivation baisse. En dernier lieu, le principe du mastermind et l'influence de l'entourage, le mastermind est un des concepts les plus connus associés à l'ouvrage. Hill soutient qu'une coopération structurée entre plusieurs personnes, unies par un objectif commun, augmente la qualité des idées, la discipline et les opportunités. Au lieu de idéaliser le génie solitaire, le livre met l'accent sur la synergie, les compétences se complètent. Les angles morts sont corrigés et l'énergie collective soutient l'effort individuel. Dans une perspective entrepreneuriale, cela revient à construire un réseau actif. Pas seulement social, mais orienté vers la résolution de problèmes, le partage de contacts et la prise de décisions plus solides. Hill insiste aussi sur l'importance de l'environnement mental, les influences répétées finissent par façonner les croyances et les ambitions. Choisir ses fréquentations, ses lectures et ses sources de inspiration devient donc un levier stratégique. Le mastermind n'est pas présenté uniquement comme un groupe d'amis, mais comme une alliance de travail fondée sur la confiance, l'échange et la clarté des objectifs. Cette idée reste pertinente aujourd'hui, que ce soit dans un collectif de fondateurs, un cercle de pairs, du mentorat ou une équipe projet. Le bénéfice principal est de réduire l'isolement, de accélérer l'apprentissage et de augmenter la capacité à transformer une intention en exécution régulière. En conclusion, Réfléchissez et devenez riche s'adresse d'abord aux personnes qui veulent structurer leur ambition entrepreneur, porteurs de projets, managers indépendants, mais aussi lecteurs en transition qui cherchent une méthode de recentrage. Le livre apporte une combinaison de psychologie de la motivation et de principes de exécution clarifier un objectif, stabiliser une conviction, acquérir des compétences utiles. Planifier, décider, persister et s'entourer intelligemment. Son bénéfice pratique se situe moins dans des techniques financières que dans l'installation d'une discipline répétition, focus hygiène mentale et apprentissage continu. Intellectuellement, il offre une vision historique de la littérature de la réussite en formulant des idées qui ont influencé de nombreux ouvrages ultérieurs. Il se distingue de beaucoup de livres modernes par son ambition systématique proposer un ensemble cohérent de principes plutôt qu'une simple série d'astuces. On peut lui reprocher certains passages marqués par leur époque, et des notions que certains lecteurs interprètent comme plus spéculatives. Mais l'ossature du raisonnement reste robuste, la réussite durable est rarement accidentelle, elle se construit par la clarté. La constance est la capacité à mobiliser des ressources humaines. Lu avec esprit critique, ce classique sert de cadre de travail pour transformer un désir en stratégie et une stratégie en habitude. Si vous souhaitez soutenir Napoléon Hill, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.